Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
J'aimerais lire avec vous ce soir Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1 qui nous dit « Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés, ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. Et l'ange dit aux femmes, entourez s'il vous plaît le mot femme. Juste pour que vous sachiez, femme. Oh, dans l'église. Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus. Celui qu'on a cloué sur une croix, il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples. Il s'est réveillé des morts et il vous attend en Galilée. Tout le monde entoure Galilée. Pas dire, mais entouré. C'est pas grave. Mathieu, t'es avec moi, ouais, je sens. Il vous attend en Galilée. Tout le monde entoure Galilée. Tout le monde souligne Galilée. Vous le verrez là-bas. Soulignez, vous le verrez là-bas. Tout le monde dit, je le verrai là-bas. Voilà ce que je vous ai à vous dire, dit l'ange. Les femmes quittent vite la tombe, elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Intéressant d'avoir peur d'être joyeux. Moi, quand je lis la Bible, je me plonge là-dedans, je me dis, les gars ont peur, ils sont joyeux, trop cool. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, sur le chemin, Jésus vient à leur rencontre. Au début, elle parle à l'ange. Et là, Jésus lui-même vient et leur dit, je vous salue. Marise, c'est les deux Maries. Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Et ils me verront là-bas. Je veux dire, quand je lis la parole de Dieu, moi j'aime bombarder la parole de questions. Je me suis dit, Seigneur, cette semaine, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu me parles de la Galilée? Et dimanche soir, plutôt lundi matin, vers les coups des 2h du matin, j'étais en train de me dire, Seigneur, il faut que je sorte de cette zone-là, c'est trop compliqué, mon âme est trop vide, pourtant je sais que tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, mais je ne sens plus rien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Non, Dieu me dit, il n'y a pas de problème, Dieu me dit, rejoins-moi en Galilée. Juste ça. Seigneur, la Galilée? Alors je commence à me dire, ça se trouve, il faut que je prenne l'avion pour Israël, c'est cool. Avec un chauffard, tout ça. Il faut que j'y aille. Et je prie lundi matin, mardi, je vais courir, je prie, je réfléchis. La Galilée. Et je me dis, bon, je vais quand même prendre la parole de Dieu, je vais quand même lire ce qui se passe, je vais voir la Galilée. Et là, je tombe sur ce passage où Jésus dit à plusieurs reprises, allez me rejoindre en Galilée. Et ce soir, j'ai un message pour l'Église de Christ ici, l'Église de Christ à La Réunion, l'Église de Christ en France. Jésus nous appelle à le rejoindre en Galilée. Pour ceux qui écoutent, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde prenne l'avion pour Israël. Mais simplement, de façon prophétique, Dieu nous appelle à le rejoindre en Galilée. Et il dit, ils me verront là-bas. Vous savez, ce passage, nous on lit comme ça et on se dit, waouh, c'est chouette, mais ce passage intervient un dimanche matin. Jésus vient tout juste de ressusciter. Il se montre d'abord à des femmes. Et ce sont les femmes qui vont dire aux disciples de Christ ce que Christ attend d'eux. Mais j'imagine la scène, les disciples sont tous dispersés, démoralisés. Je veux dire que ce passage intervient entre un vendredi soir, un vendredi matin où Jésus-Christ est mort, un vendredi où Jésus-Christ est mort, et un dimanche où il est ressuscité. Et ce soir, quand Dieu m'a dit à moi, il le dit aussi à vous, rejoins-moi en Galilée, il veut dire, quitte ce moment de vie dans lequel tu es en ce moment, tu es en train de vivre entre le vendredi et le dimanche. Trop de chrétiens restent scotchés entre le vendredi où Dieu est mort, Jésus est mort, pardon, et le dimanche où Dieu l'a ressuscité. Écoutez bien cela. Il me dit, rejoins-moi en Galilée. Et là, au moment où je m'assois, je commence à méditer. Et j'imagine les disciples en train de pleurer, qui se disent, mais je ne comprends pas, ça fait 3 ans et demi, on marchait avec lui. Il nous a dit, il nous a montré des miracles, des signes, des prodiges. Pierre, je te rappelle le jour où il y avait les 25 000 personnes, il y avait 2 poissons, il y avait 5 pains. Jésus-Christ a fait un miracle. Pierre a dit, je me souviens, c'est moi qui ai fait le premier partage. C'est moi qui ai donné le pain en premier. Jean dit, non, c'est moi. Il a dit, non, c'est moi. Et je me souviens quand j'ai marché sur l'eau, et toi, Pierre, Jean, t'as marché sur l'eau, toi, non, moi, Pierre, j'ai marché sur l'eau. Moi. Je me souviens de tout ça. Et les gars parlent de leur vie avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Mais ils sont brisés, ils sont démoralisés. Jésus n'est plus sur terre. Jésus est mort. Au moment où cela se passe, les femmes sont déjà au courant, mais les disciples sont en train de pleurer. Ils sont dispersés. Ils ont oublié ce qui se passe. Ils n'ont pas d'idée de la grande image de Dieu. Ils n'ont pas compris le cœur du Père. Ils n'ont pas compris ce que Dieu veut vraiment faire. Ils vivent leur vie par procuration, ils vivent leur vie avec des émotions du passé, ils vivent leur vie dans le passé. Ils ne se rendent pas compte de ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu fera, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils oublient cela. Et pendant ce moment où ils sont en train de repenser à leur vie, ils disent mais c'était beau à l'époque, il y avait des signes, des miracles, des prodiges, et nous étions sincèrement convaincus que Christ allait venir et nous mettre sur le trône avec lui, et ça aurait été génial. Et Christ est mort sur la croix. Et tout d'un coup, dans cette atmosphère-là, je peux imaginer leur cœur, des femmes débarquent. Wow, les disciples! Ouais, quoi encore? Jésus-Christ est vivant. Écoute, femme, arrête. On est aussi des réunionnais, femmes, comme on parle aux hommes. Qui a dit amen? Les femmes arrivent et elles annoncent aux disciples quelque chose qui ne devrait pas les surprendre. Et là, les disciples entendent cette nouvelle qui frappe leur cœur. Et écoutez bien cela. Je vous attends en Galilée. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que Christ n'est pas venu lui-même chez Pierre? Franchement, pourquoi il n'est pas venu directement avec les femmes? Et il dit, salut, je suis Jésus, vous vous souvenez de moi? Et ça aurait été tellement plus simple. Non, il ressuscite, il parle à des femmes, qu'à l'époque, les femmes n'ont aucune valeur. À l'époque, les femmes n'ont aucune valeur. Aucune. Il n'y avait pas de parité, rien là. Les femmes étaient, excusez-moi l'expression, mais elles étaient comme des chiens. Aucune influence, aucune autorité, aucune valeur, c'était des femmes. Et Jésus choisit les femmes pour annoncer la nouvelle aux disciples. Et il dit, je vous attends en Galilée. Et je me suis posé la question, pourquoi la Galilée? Pourquoi pas Bethléem? Ou Jérusalem? Ou Saint-Denis? Parce que la Galilée, écoutez bien ce soir ce que Dieu va dire à l'Église, écoutez bien cela. La Galilée, c'est là où tout a commencé. Jésus dit, rejoins-moi en Galilée. Là où tout a commencé. Dans Matthieu 4, 18, cette image magnifique, un jour Jésus-Christ marchait au bord du lac de Galilée. Il vit 2 frères, Pierre et André, qui jetaient leur filet et Jésus les appelle et leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et là, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Écoutez bien ça, Galilée, c'est là où tout a commencé. Et dans ce moment d'attaque cette semaine, Dieu me dit, rejoins-moi en Galilée. J'ai dû chercher le cœur de Dieu, creuser sa parole. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? C'est quoi Galilée? Dans Matthieu 26, versets 30 et 32, c'est juste avant la mort de Jésus-Christ. Et il chante des psaumes de la fête de la Pâque. Je crois que ces psaumes-là, c'est les psaumes 113 à 118, je crois. Ensuite, ils vont au mont des Oliviers. Écoutez bien ça, la veille de la mort de Jésus-Christ, ils chantent des psaumes. n'ont pas réussi à prier avec Jésus, mais ils ont réussi à adorer avec Jésus. Verset 31, alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. » En effet, dans les livres saints, on lit, « Je vais tuer le berger, et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés. » Verset 32, Jésus ajoute, « Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. » Ce soir-là, Jésus leur dit, « Je vais mourir, mais je vous attendrai en Galilée. » Et entre le moment où je vous parle et le moment où je vous attendrai en Galilée, on va faire deux choses. On va d'abord passer par le mont des Oliviers. Ensuite, je vais ressusciter et vous me rejoindrez en Galilée, là où tout a commencé. Retourner en Galilée, c'est quoi ? C'est pas prendre l'avion pour Israël. Retourner en Galilée ce soir, c'est que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour vous et pour moi, en tant qu'homme, femme, chrétien, en tant qu'église. C'est de faire une pause ce soir sur ma vie, sur ta vie. De retourner en Galilée, ça veut dire de relire les événements de ta vie à la lumière de sa puissance. Pas comme une succession de moments difficiles, moments faciles, des moments de doute ou de crainte, mais comme une succession de moments orchestrés par Dieu. Retourner en Galilée, c'est revenir vers ce moment-là où tout a commencé dans ton cœur. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as dit oui à Jésus ? Ce moment où Jésus a captivé ton cœur, ce moment où Jésus a captivé ta vie, ce moment où tu t'es senti, tu t'es rendu compte que ses regards étaient sur toi. Et que tout d'un coup, tu avais de la valeur. Et que tout d'un coup, tu t'es dit, mais ma vie n'est pas un échec, Dieu m'aime. Galilée, là où tout a commencé. J'ai commencé cette semaine à faire moi mon propre chemin, mon propre retour à Galilée. C'est le moment où le feu est né en moi. Et je vais vous dire une chose ce soir, écoutez bien, je vais essayer d'être bref, mais juste donner quelques éléments de ma vie. En 1989, j'ai 13 ans. Et croyez-le ou pas, mais Jésus-Christ m'a donné ma mission avant que je ne donne mon cœur à Jésus. Vous devriez prier pour vos enfants, même s'ils ne sont pas chrétiens, Dieu peut leur parler et leur donner leur mission avant d'être convertis. Et écoutez ça, je vais peut-être vous choquer, c'est dans une maison créole, petite maison à Saint-Denis, à la Bretagne. Soirée d'hommes, j'ai 13 ans. Et mes oncles et mon père et les hommes sont là, ce soir-là. Et au bout de la cinquième, sixième heure, je suis à genoux et je vous promets devant Dieu, ça m'est arrivé qu'une seule fois à ce niveau-là. Jésus-Christ m'apparaît. Pas un ange, pas Jésus-Christ. Et il me dit, avec un grand sourire, « Je t'ai choisi pour faire la différence dans cette nation. » Et là, je me mets à pleurer, et que vous le croirez ou pas, le témoin était là ce jour-là. Un des témoins, c'est Fred Teicher. Et le pasteur Fred Teicher, à l'époque, est présent. Et cette semaine, on s'est croisés, cette semaine, on a bien café ensemble. Et il me disait, Bruno, je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai vu la puissance de Dieu sur toi. Tu tremblais comme une feuille. Je n'avais pas encore donné mon cœur à Jésus. Je ne comprenais pas c'était quoi donner son cœur à Jésus. J'ai simplement compris une chose. Dieu existe. Et Dieu m'aime. Et l'implant pour moi. Je ne comprenais pas tout le système, viens dans l'église, lève ton cœur à Jésus, fais une formation de disciples, deviens fin baptême. Ouais. Non, c'était lui et moi, bam. Et ce jour-là, j'entends dans mon cœur, je vois, c'est vivant en moi, Dieu me dit, je t'ai choisi pour faire la différence dans cette nation. Écoutez bien, je parle de la Galilée, je suis ce soir à Saint-Denis, je vous parle de ce message, tout a commencé dans ma vie, à Saint-Denis. Écoutez bien cela. Et puis, malheureusement, les choses se passent mal. Les églises à La Réunion ont beaucoup de mal à rester fermes, ne préservent pas l'unité. Et là, malheureusement, à l'époque, l'église explose. Mes parents sont blessés, je suis blessé, extrêmement énervé. Là, je quitte l'église à l'époque et j'ai que 13 ans. Et nous retournons catholiques, non pratiquants. Plus facile à faire. On a juste une confession à faire par an, juste avant la Pâque. C'est cool. Et là, je repars dans ce flot-là et dans mon cœur, un soir, je n'oublierai jamais ce moment-là. Et je suis en pleurs devant Dieu. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ces hommes qui déclarent ton nom et qui font mal à ce que tu aimes? Je ne comprenais pas, je ne jugeais pas, c'est pas ça, je n'étais pas en colère avec eux, mais j'avais mal. Et j'ai dit ce soir-là, je dis, Seigneur, si un jour tu me permets de rencontrer ne serait-ce qu'un homme, malgré ses défauts, un seul homme qui te serve à 100% et en qui je peux avoir confiance, je te servirai toute ma vie. On est en 89. 4 ans passent. J'ai 17 ans et je suis en route pour aller en boîte de nuit. Au Chapiteau. La boîte de l'époque, là où tout le monde se retrouve pour sortir comme des australopithèques. Et là, j'arrive, et sur le chemin, la journée, mon oncle Jim m'appelle et me dit, tu sais Bruno, il y a un homme de Dieu qui est à La Réunion, il parle anglais, on ne comprend pas tout ce qu'il dit, est-ce que tu pourrais venir et traduire? Et en plus, on fait un super couscous. Couscous, ça suffit pour moi, le reste, je n'ai pas entendu. Je vais venir. Je parle un petit peu anglais et j'arrive ce soir-là et tu peux oublier le timing, hein, je ne vais jamais faire ça. Tu me fais peur là. Merci mon ami. Et j'arrive donc chez Jim et comme je dis ce matin, mes parents sont déjà là. Et ma sœur, avant que je vienne, me dise, je te préviens, moi je n'aime pas mon cœur à Jésus lors de sec là, n'importe quoi. Nous on va en boîte avec mon copain François. Je ne sais pas si elle est présente, mais si elle est présente, salut. Et je suis là et je me dis, non, t'inquiète pas ma sœur, je gère. Je maîtrise. Quand je rentre dans la pièce, Marc Bredenkamp est en train de laver les pieds de mes parents. Je ne connais pas le monsieur, il a une grande queue de cheval. Écoutez bien ça. Et il vient juste d'arriver et il se met à pleurer et il demande pardon à mes parents pour toutes les blessures que d'autres hommes de Dieu leur ont infligées dans le passé. Je ne connais pas l'histoire. Et ils pleurent et ils lavent leurs pieds en disant pardonnez-nous. C'est dans le passé, des hommes de Dieu nous ont fait du mal. Dieu vous aime. Et moi, j'arrive dans ce moment-là, je fais, ce monsieur-là est dangereusement fou. Et je dis rien, je m'assois, et là, il se tourne vers moi, et il me dit, est-ce que tu peux m'aider à traduire? Et je vous promets devant Dieu, au moment où j'ouvre ma bouche, j'entends Dieu qui me dit clairement, voici cet homme, le temps est venu de commencer à me servir. 16 novembre 93, je donne ma vie à Jésus, réellement. Ça fait 20 ans maintenant, 21 ans. En quelques semaines, ça fera 21 ans que je suis chrétien. Ça fait 21 ans que j'ai le même père spirituel qui s'appelle Marc Bredenkamp. J'ai fait des erreurs, je n'ai pas toujours été un bon fils, mais je suis toujours resté connecté à un seul et unique pasteur, homme de Dieu dans ma vie. Dieu m'a dit, il est un homme selon mon cœur, et j'ai promis à Dieu, si tu me montres un homme selon ton cœur, je te servirai toute ma vie. Quand les choses viennent de Dieu, que tu le veuilles ou non, la Galilée te rattrape. Et le 16 novembre, donc, je me convertis. Je suis en terminale. Et là, les choses s'accélèrent. Et la première semaine, juste pour quelques points, la première semaine, vous allez mieux comprendre mon cœur ce soir, la première semaine, Dieu m'amène dans le monde de l'esprit. Je veux dire, il faut comprendre ma vie. Je suis en terminale scientifique, maths, physique, bio sont mes options. Et à l'époque, je me vante de dire, moi, c'est pas prouvé par la science, c'est n'importe quoi. Et là, Dieu m'amène dans le monde de l'esprit. Je ne dors pas pendant une semaine. Je rate l'école pendant une semaine. Et Dieu m'amène, que vous le croirez ou pas, j'ai rarement partagé ça, je suis pas mystique, je suis pas foufou, je veux pas vous impressionner, rien à voir avec tout ça. Vous jugerez ou pas, c'est votre problème avec Dieu, moi je sais ce que j'ai vécu. Là, il m'emmène dans le monde spirituel et je partagerai que une ou deux des visions que j'ai reçues et des moments que j'ai vécus. Certaines d'entre elles étaient tellement réelles que ce n'était pas une vision. J'étais dans le monde de l'esprit. L'une d'entre elles était, Dieu m'a emmené dans cette grotte-là des premiers Français. Dans cette grotte-là, il y a un couloir. Il y a plusieurs prisons, plusieurs caves, plusieurs trous avec des prisons. Il y a des gens dans ces prisons, dans ces trous, qui sont nus, qui sont sales, qui sont frappés et humiliés. Et au fond du couloir, il y a une salle avec une table ronde. Et je m'approche, mais c'est comme si Dieu me cache à l'ennemi. Je m'approche et j'entends ce qu'ils disent. Et ils sont en train d'élaborer des plans pour détruire la réunion. Et le premier mot que j'entends, la première phrase que j'entends, c'est le chef du groupe qui dit « La première à faire, c'est d'attaquer les bergers. Si on les divise, on va régner. » Et là, Dieu me dit, au moment, quand je vois ça, il me dit « Pas maintenant, mon fils, plus tard, tu t'en occuperas, quand tu seras prêt. » Il me dit, écoutez bien ça, il me dit « Pour l'instant, va dans les différentes caves, va récupérer les gens. » Et je me vois, il faut comprendre, pour moi c'est compliqué parce que je ne suis pas un grand gars baraqué et tout ça, mais je me vois en train de prendre une personne sur mes épaules et l'amener vers l'extérieur de la cave, là où il y a la lumière qui brille. Et lorsque je la dépose par terre, il y a des dizaines de frères qui viennent les chercher, qui les habillent, qui les lavent, qui leur mettent les sandales et l'alliance, qui dit « Tu es bienvenue dans la famille ». Et elle, tout d'un coup, dès le moment où elle touche ce groupe de personnes-là, la vie reprend, la joie reprend. Elle est lavée, purifiée, sanctifiée. Et par dizaines, je retourne les chercher, par dizaines. Là, je marque des mots français simples, mais ça m'a pris quelques heures. Ça m'a choqué à vie. Galilée ? Là où tout a commencé, quand ça n'allait pas ces derniers jours-là, parce que je trouvais totalement aberrant qu'on doit vivre cela, j'ai entendu Dieu me dire, retourne en Galilée, et j'ai commencé à revivre la Galilée. Là où Dieu m'a parlé, là où Dieu m'a montré des choses sur la Réunion, des stratégies, des ennemis qui sont ici à la Réunion, comment ça fonctionne, la déesse de la mer, esprit de division, la magie blanche, la sorcellerie. Comment est-ce que les bergers veulent être en compétition et tout ça? Et je me suis dit, wow, Seigneur, je suis en train de me rappeler la Galilée. Vous savez quoi? Quand Dieu vous a parlé, cette parole vous soutiendra toujours. Je n'ai pas dit quand un prophète vous parle. J'ai dit quand Dieu vous a parlé. Personne ne peut enlever ce que Dieu m'a dit en 89. Personne ne peut enlever ce que Dieu m'a dit en 93. Personne. C'est vivant, c'est dans mon âme. Et quand j'ai envie de baisser les bras, je pense à Jésus qui dit que Jésus a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée. Quand les choses ne vont pas comme j'aimerais qu'elles aillent, alors je me rappelle la Galilée. Je me rappelle ces moments où Dieu m'a dit, on est prêt, on va y aller. Est-ce que tu as déjà vécu un Galilée? Est-ce que tu as déjà vécu en Galilée? Ce moment où Dieu a planté en toi des choses, que tu as senti que Dieu te prenait par la main, que tu as senti que ce moment-là était un moment où ta vie devait changer. Tu dis, je veux changer. Et après, bien sûr, il y a eu plein de choses. Il y a eu le mont des Oliviers. Et ce fameux samedi entre vendredi et dimanche qui dure une éternité. Il y a eu ces moments de doute, de crainte, de chute, d'échec. Ces moments où on a fait des erreurs, tout ça c'est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ ce soir te dit, rejoins-moi en Galilée. Un jour j'étais, ça remonte il y a à peine un an et demi en arrière, j'ai pris ma voiture. Et mon épouse me connaît, je fais ça de temps en temps quand Dieu me parle, il me dit fais ça, je prends ma voiture et j'ai fait le tour de l'île. Et je voulais simplement sentir qui étaient les ennemis qui régnaient à la Réunion. J'ai fait une liste personnelle. Après, j'ai prié en disant, Seigneur, par quoi on commence? Il me dit le sud et le nord. Établir des campus forts Quand je commençais à prier pour ça, je me suis rappelé encore une fois à la Galilée. Écoutez bien cela. C'était un soir, j'étais au tampon ce coup-ci, et je priais. Et je me demandais pourquoi est-ce que les églises à La Réunion, y compris la nôtre, avaient du mal à percer et à impacter La Réunion. Écoutez bien cela. Tout d'un coup, Dieu a ouvert le ciel, il a ouvert le toit réel, il a carrément ouvert pour moi. Et j'ai vu dans le monde spirituel une armée de démons. En hauteur, qui planait comme un nuage immense. Le nuage était immense. Je ne pouvais pas voir la gauche, ni la droite, ni devant, ni derrière. C'était un mur noir. Je me dis, OK, il y a un mur à briser. Dieu me dit, non, ce n'est pas un mur. Il m'a pris par la main et c'est comme si, c'est bizarre, enfin, je prends pour un fou, mais c'est pas grave. J'ai décollé et je me suis rapproché à une grande vitesse de ce mur-là, soi-disant qui était un mur. Et plus je m'approchais, plus je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était des démons. Et leur langue était des épées. Et c'était extrêmement connecté, extrêmement aligné. C'était comme une armée, mais parfaite. Ligne après ligne après ligne. De loin, on dirait un mur tout noir. De près, on voit des lignes de soldats armés et leur langue balance sur la terre, sur La Réunion, malédiction, destruction, division, et ça bombarde tout le temps. Là, mon premier réflexe, c'est « Seigneur, mais pourquoi est-ce que je suis seul ? Où sont les chrétiens ? Où sont les chrétiens ? Comment ça se fait qu'on n'a pas de puissance là ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Je me mets à m'affoler, me dis « Regarde bien ce qui se passe. » Tout d'un coup, il me tourne, je regarde en bas, et je vois des chrétiens qui sont à table, en train de manger, rigoler, discutent, parlent de leur futur achat de voiture, ou de montre, rien de grave, bien, Dieu n'est pas en colère avec ça du tout. Les plans sur les maisons, pas de problème. Mais tout d'un coup, il me ramène dans une maison et j'entends le chrétien qui dit « Tu vois tel frère ?» Et il se met à critiquer. Et au moment où il se met à critiquer, c'est comme si l'ennemi qui est en haut aspirait cela, se servait, se nourrissait de ça. Et plus les chrétiens, oubliez le monde, oubliez les gens du monde, oubliez les gens qui cassent, oubliez eux, les chrétiens nourrissaient ce mur ennemi qui était un tissu noir sur La Réunion, les chrétiens. Avez-vous déjà lu dans la parole 2 où Jésus a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ?» Et pourtant, dans l'Apocalypse, votre Jean dit « Il a été précipité du ciel, l'accusateur des frères qui accusait les saints jour et nuit devant le trône de Dieu. » J'ai lu ça ou pas ? C'est dans la Bible. Comment se fait-il que Satan ait accès auprès du trône de Dieu jour et nuit pour accuser les frères ? Satan a accès au trône de Dieu au travers des cœurs des saints qui viennent devant le trône de Dieu. Et quand vous et moi, nous venons avec nos critiques et nos paroles blessantes, nos paroles négatives, nos paroles de mort, de malédiction, nous apportons cela devant le trône de Dieu et Satan a le droit légal de descendre et de détruire des vies et des familles parce que les chrétiens amènent le poison dans la présence de Dieu. En 89, quand je suis à genoux et que Jésus vient me voir, il me dit « Je t'appelle à faire la différence dans cette nation et alors tu comprendras pourquoi j'ai appelé cette île la Réunion. Je veux tout faire et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être un artisan de paix et d'unité. Pendant des années, je n'ai pas compris comment faire, je n'ai pas réussi à le faire, j'ai laissé ma frustration me conduire. Mais aujourd'hui, j'ai appris une chose. Si vous et moi, nous voulons être des artisans de paix, il nous faudra faire des sacrifices. Parce qu'il n'y a pas de paix sans sacrifice. » Et je termine avec ça ce soir. Que veut dire Galilée ? Je vous rappelle que ce message-là, il a été construit sur quelques jours. Je n'ai pas de plan là, je vais avec le flot que Saint-Esprit me donne. Et quand je parlais avec l'équipe tout à l'heure, je n'avais pas encore tout compris. Et quand ils m'ont quitté, là, j'étais dans mon bureau et j'ai commencé à prier. Et Dieu me dit, tiens, vérifie juste ce que signifie le mot Galilée. Écoutez ça. J'ai simplement écrit pour vous. C'est une dame qui étudie l'hébreu. Et elle est juive. Et elle dit, Galilée se dit Galil en hébreu. Le sens de ce nom très ancien provient du moment qui marque le début de la conquête de Canaan par Josué. Il vient d'une racine hébraïque qui signifie rouler. Il désignait un cercle de pierres, comme dans Gilgal, qui a la même racine. Et Gilgal est devenue la ville où Josué s'est arrêté après le Jourdain pour dresser 12 pierres et pour marquer le début de la conquête. Et Dieu me dit, retourne en Galilée, là où tout a commencé, et ça signifie le début de la conquête.